sommes 6 étudiants en carrière sociale de l'IUT Tours, qui est une formation pour devenir animateur-animatrice. Nous avons donc réalisé un podcast dans le cadre de notre formation pour mieux comprendre le fonctionnement d'une structure d'animation. Nous avons alors interviewé Zoé, qui est une animatrice de la structure La Bidouillerie.
La Bidouillerie est une association rennaise qui organise depuis 2013 des séjours, vacances éco-responsables et citoyens à destination des enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans. Ce sont les enfants et les adultes qui co-construisent les programmes du séjour ensemble grâce à des outils pédagogiques adaptés.
Tout est mis en place pour que ces séjours se déroulent dans le respect de chacun et de leur environnement. Les repas sont préparés avec des produits frais et bio et ou locaux. Le taux d'encadrement est de 1 adulte pour 4 enfants. Zoé va donc nous expliquer tout cela.
La Bidouillerie, c'est une association qui existe, je crois, depuis 2013 et qui a fonctionné avec, à certaines périodes de son existence, des salariés, mais qui maintenant est entièrement structurée autour de l'engagement bénévole des personnes qui la composent. Et du coup, c'est une association qui organise des colos pour les jeunes de 6 à 17 ans l'été. Avant, il y avait aussi des colos à l'automne et au printemps. Depuis cette année, c'est exclusivement pendant l'été. Et qui se revendique de l'éducation populaire. Donc, il y a une attention particulière à ce que les jeunes puissent prendre part à l'organisation de leur séjour, être acteurs de leur séjour, et pas seulement venir consommer des activités. Il n'y a pas d'activité de consommation dans les colos à la Bidouillerie. Et c'est vraiment les enfants, les jeunes qui vont organiser leurs activités, ce qu'ils ont envie de faire et le fonctionnement global de la colo une fois sur place. Et du coup, cette association, elle est basée à Rennes. Et donc, je vais plutôt parler de ce qui se fait cet été, mais il y a 3 lieux de colo. Il y en a un sur l'ancien terrain de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Il y en a un à Belle-Île-en-Mer et un en Touraine, dans un lieu qui s'appelle La Butte. Et du coup, c'est ces 3 lieux-là qui vont accueillir entre 2 et 3 colos cet été, chaque lieu, et sur lesquels sont du coup des équipes d'animation avec des directrices, des animes, et qui forment comme ça une équipe d'animation pour accompagner les jeunes dans leurs vacances.
Ok. Voilà. Et pourquoi les colocs, elles sont maintenant que en été et plus en hiver et en automne ?
Eh bien, parce que pour plusieurs raisons, mais c'est surtout des raisons financières. C'est que il y a eu plusieurs choses, notamment il y a eu l'augmentation du CEE, qui est le contrat d'engagement éducatif, donc le contrat qui régit l'emploi des animes et directrices pendant l'été, qui a augmenté sans avoir à côté de l'accompagnement de la part de l'État pour continuer à accompagner des structures comme la nôtre qui est plutôt petite. Et donc il y a eu ça, il y a l'inflation qui concerne autant du coup les prix des lieux de séjour qui augmentent, mais aussi le prix de la nourriture, de l'essence, tout ça. Et nous, du coup, en interne, on a fait la première des décisions, ça a été de du coup plus avoir personne salariée et de s'engager collectivement, bénévolement pour pouvoir continuer à faire vivre cette structure. L'autre chose, c'était qu'on voulait pas augmenter les prix des séjours parce que ça voudrait dire que des familles qui sont moins favorisées peuvent pas partir en vacances, les enfants peuvent pas partir en vacances en colo, et du coup on voulait pas non plus augmenter les prix des séjours pour pouvoir continuer à faire partir plein de jeunes, mais du coup qu'il y ait moins de diversité dans les jeunes qui viennent puisqu'il y aurait eu que des jeunes plus favorisés. Et du coup, un peu l'ensemble de tout ça, ça a fait qu'on a été obligés, parce que bénévolement, c'est déjà du gros taf de tenir toute cette logistique des inscriptions, des demandes d'aide. Et du coup, on pouvait pas faire ça sur un nombre trop important de séjours. Et c'est pour ça qu'on a plus que les séjours l'été et qu'on en fait plus à l'automne et au printemps.
Ok. Est-ce que vous pouvez présenter les valeurs de la structure ?
Ouais, il y a un peu plus des grands piliers du projet de l'asso. Il va y avoir le fait que c'est un taux d'encadrement qui est assez important, c'est-à-dire qu'il y a un animatoriste pour 4 enfants. Du coup, ça fait que sur une équipe, sur un séjour où il y a 24 jeunes, il va y avoir 6 animes. Alors, dans les faits, il y a toujours une personne qui est en congé. Comme c'est des séjours qui sont autogérés, donc ça veut dire que c'est nous qui nous faisons la nourriture, il n'y a pas de cuisinier sur place. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un anime qui est souvent avec des enfants, mais qui est détaché pour faire la cuisine à chaque repas. Donc ça fait plutôt genre un anime pour 5-6 enfants, mais ça fait quand même un gros taux d'encadrement. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait de l'animation, mais plutôt le taux légal, c'est 1 pour 8, 10, 12 selon les âges, mais du coup 1 pour 12 c'est pas beaucoup, et 1 pour 4 ça fait beaucoup plus d'attention du coup pour les enfants, plus prendre soin des jeunes et aussi entre nous, pouvoir plus s'écouter dans nos besoins. Donc ça c'est une des grandes valeurs, on peut dire, de la bidouillerie. La deuxième, je dirais que c'est de mettre en place des outils de ce qu'on peut appeler la démocratie participative, le fait d'avoir des outils de prise de décision pour les enfants et les jeunes, c'est-à-dire que tout n'est pas pensé par l'équipe d'animation en amont, mais que sur place il faut qu'on permette aux enfants et aux jeunes de prendre des décisions sur comment s'organiser leur colo. Et ces outils de décision, ils peuvent concerner le planning d'activité, les repas, mais aussi ça peut être tout type de décisions qui sont liées à la vie quotidienne, l'heure de coucher, enfin ça, c'est toutes ces choses-là qui peuvent être prises, ou des décisions peuvent être prises pendant le séjour. Donc c'est permettre ça, et donc il y a plusieurs outils possibles que chaque équipe peut s'approprier. On fait une attention un peu particulière à la nourriture, comme je disais tout à l'heure. C'est le principe de tous les séjours, c'est que c'est des séjours qui sont campés, ils ne sont pas en dur, on n'a pas une cuisine en dur et des dortoirs, quoi. C'est des tentes et on fait la cuisine dehors. Et ça n'empêche pas d'avoir une attention particulière sur ce qui va être proposé comme repas. Et notamment, on essaye de faire attention à ce que ce soit des bons produits. On essaye de plutôt faire des repas avec des produits locaux, bio quand on le peut, et sur toute saison. Et ça, c'est aussi une grosse attention. Donc, je dirais que c'est un peu les grandes valeurs de la bidouillerie.
Ok. Et c'est quoi la différence, le fait d'avoir un animateur pour 4 enfants des autres structures ? En quoi ça permet de mieux avoir d'attention pour les enfants?
Eh bien, parce que de fait, on est plus attentive à ce qui est en train de se passer pendant la colo. Et quand tu es un adulte et que tu dois avoir une attention particulière sur 12, 15 enfants, c'est compliqué d'avoir le temps et l'énergie et même la disponibilité pour avoir cette attention sur tous ces enfants-là, alors que si tu as plutôt 4-5 enfants dont tu dois avoir la référence ou une attention particulière sur ces jeunes-là, c'est beaucoup plus simple de prendre le temps, de discuter, de voir si le jeune se sent bien dans la colo, si tout se passe bien. Et donc c'est vraiment cette disponibilité et ce temps qui est plus important quand on est plus d'adultes pour le même nombre d'enfants.
Ok.
Et est-ce que vous avez des exemples concrets de choses qui sont possibles à faire avec un anime pour 4 enfants qui ne seraient pas possibles en fait dans une structure comme on a l'habitude de connaître?
Je dirais par exemple dans beaucoup de colos que j'ai pu faire, on fait des moments, alors ça peut avoir plein de noms différents, mais c'est des moments souvent avant le coucher où on prend le temps, un petit temps, avec du coup un petit groupe d'enfants dont en tant qu'anime on peut être référent. Moi j'appelle souvent ça les vides tentes, vides chambres. C'est un moment où on où on prend peut-être 30 minutes pour parler de la journée ou de comment on sent ou de se raconter des blagues ou des histoires ou d'accompagner au coucher et à l'endormissement. Et en fait, ça, c'est permis parce qu'il peut y avoir du coup des petits îlots de 5-6 quand on est, par exemple, 24 enfants avec un manu pour chaque îlot. Et pour ces petits îlots, du coup, prendre le temps, l'adulte avec les enfants, de parler de comment ça va. Et si on est 1 pour 12, eh bien, du coup, il n'y a pas cette possibilité-là. Et 12 enfants au même endroit, on ne va pas créer les mêmes choses que seulement 4-5 enfants. La possibilité de s'écouter entre soi, la possibilité de prendre un moment de redescente et de soins, c'est plus facile, beaucoup plus facile quand on est 4-5, enfin, en tout cas avec 4-5 enfants plutôt que quand on est avec 12.
Est-ce que vous êtes encore là?
Il vous reste 8 minutes. Bonne fin d'écoute.
Un centre classique, on va dire. Est-ce que du coup c'est plus cher? Et est-ce que vous arrivez quand même du coup à avoir de tout public ou c'est plutôt du coup des familles qui sont plutôt aisées ou enfin de la classe moyenne? Oui.
Eh bien, le public, il est assez varié. Je pense qu'on n'est pas plus cher que du centre de loisirs classique parce que, justement, aussi dans les centres de loisirs classiques, il va y avoir... Quand on est une famille, qu'on inscrit un enfant dans peut-être un centre de loisirs plus classique ou une colo plus classique, c'est une colo où il va y avoir plein de ce qu'on appelle les prestations. Il va y avoir la sortie à l'acrobranche, aller faire du kayak ou je sais pas quoi. Enfin, du coup, tout c'est une visite d'un musée. Enfin, tous ces trucs-là sont payants et font que le séjour est plus cher. Et nous, plutôt, on se dit que dans nos séjours, les activités, elles vont se créer avec ce qu'il y a sur place. On a plein de matos pédas sur place, mais du coup, il n'y a pas ce côté payer des prestations. Donc, il y a déjà ça. Et au niveau du public, ça va être assez mixte parce que... De fait, il y a des familles de classe moyenne, moyenne sup ou plutôt aisées qui ont envie de proposer à leurs enfants des séjours qui changent un peu de justement le centre de loisirs classique. Mais il y a aussi des partenariats. Enfin, nous, au niveau de la bidouillerie, on a des partenariats avec des partenaires sociaux. Donc, ça peut être des foyers. L'ASE, des personnes qui accompagnent des MNA, des mineurs non accompagnés, donc des enfants qui ont eu un parcours migratoire. Et du coup, en permettant à ces familles-là, à ces jeunes-là aussi de partir en vacances, ça crée des groupes assez mixtes et on leur permet ça en justement faisant des demandes d'aide, en allant chercher des ressources financières ailleurs. Enfin, il y a toute une organisation pour faire ce qu'on appelle des montages financiers pour permettre à des familles plus défavorisées de payer très peu cher leur départ en colo. Voilà.
Okay. Et comment se déroulent les colos suspendus?
Ah, trop bonne question. Et ben justement, quelque chose qu'on met en avant parce que justement tout le contexte économique dont je parlais au début, un des moyens pour permettre à des enfants ou des familles plus défavorisées permettre à leurs enfants de partir en colo, c'est les colos suspendus. Et du coup, le fonctionnement, c'est soit des familles, par exemple, qui ont les moyens et qui, du coup, peuvent payer des colos à leurs enfants facilement, peuvent rajouter des sous. Donc, c'est soit sous la forme de l'adhésion, soit sous la forme d'un don en plus. Et ces sous-là vont dans les colos suspendus, enfin, dans une sorte de cagnotte qu'on a au sein de la bidouillerie, qu'on appelle du coup les colos suspendus. Donc, ça peut être soit du coup des familles qui envoient déjà leurs enfants qui aident d'autres familles, mais ça peut être aussi. Je sais pas, telle personne qu'on connaît qui a des bonnes ressources et qui du coup a envie de soutenir le projet de la librairie qui va donner de l'argent sous la forme de dons. Et donc cette grosse cagnotte, elle est pas si grosse que ça, mais cette cagnotte, une fois qu'il y a des sous dessus, c'est nous, pendant les inscriptions, qui allons réfléchir à qui on peut donner ces sous-là comme une autre aide. En fait, ce serait comme une aide de l'État ou du département qui vient aider les familles. Là, c'est une aide qui, du coup, vient en interne de nous. Et donc, c'est des sous qu'on peut donner à des familles, en tout cas qu'on leur demande pas pour financer les colos des enfants. Et ce montage-là, c'est nous qui le faisons en interne parce que ça va dépendre des situations des familles, de quelles sont peut-être les familles les plus dans le besoin ou qui peuvent pas prétendre à certaines aides parce qu'elles cochent pas les critères. Et du coup, ces sous-là permettent de financer les départs en colo de certains jeunes.
Mais du coup, ces jeunes-là, ils sont mélangés aux autres. C'est pas des...
Ouais. Okay. Tout à fait. Il n'y a pas de... personne peut sait au sein des jeunes ce qu'a payé tel ou tel jeune pour venir. C'est pas l'idée, mais du coup, c'est le principe des colos suspendus, ça permet aussi cette mixité sociale-là, en tout cas, parce que du coup, des jeunes plus défavorisés peuvent partir en colo.
Est-ce que le tarif d'inscription, ça varie en fonction de situation de chaque famille?
Oui, tout à fait. Ouais, j'ai pas dit ça, mais justement, c'est lié au quotient familial. Du coup, ça dépend des ressources des familles. Et du coup, le prix de la colo peut être plus bas pour des familles qui n'ont pas beaucoup de ressources et plus élevé pour des familles qui ont plus de ressources. Donc oui, ça change aussi... l'accessibilité des familles des jeunes au colo.
Du coup, on avait une question par rapport à l'éducation populaire, de comment elle se traduisait dans vos activités. Et du coup, vous y avez un peu répondu. Enfin, c'est que les enfants, ils sont investis dans tout le programme.
Ouais, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait de partir des envies et de créer à partir de ça. Après, éducation populaire, ça peut avoir mille sens. Et je pense que même au sein de la bidouillerie, on n'a pas forcément les mêmes définitions de ce que serait l'éducation populaire. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment le fait que on part des envies des enfants et des jeunes qui sont acteuristes de leur séjour. Et aussi que on s'apprend des choses les uns les unes les autres, et ça va aussi dans le sens de les enfants parfois nous apprennent des choses à nous adultes, et le fait de vivre ensemble, c'est aussi pas arriver avec son point de vue très carré et très strict d'adulte, mais plutôt être curieux, être ouvert à ce que peuvent apporter aussi les enfants.
Cette interview nous a permis de découvrir une structure d'animation dans laquelle le choix et les besoins des enfants ont une place centrale dans la structure, grâce à des commissions et des temps d'échange. Cela nous a permis de comprendre qu'il existe plusieurs modèles d'éducation et d'animation.
On a remis en question toutes les méthodes qui nous ont été apprises lors de nos expériences professionnelles en ACM. Cela nous a encouragés à prendre plus en considération les besoins des enfants et de ne pas forcément suivre un programme défini. Il faut avant tout savoir s'adapter et évoluer.